Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Pour savoir ce qui se passe, ce qui se joue, ici et maintenant, il y a plusieurs sources de signes, de signaux. Parmi eux, les livres, bien sûr, avec les éditrices et les éditeurs qui accompagnent écrivains et écrivaines jusqu'aux lectrices et aux lecteurs. Voilà pourquoi j'ai choisi mon invité d'aujourd'hui, une figure singulière et combative du monde de l'édition, Marion Mazurik, observatrice et actrice de notre société. Marion Mazurik, vous êtes ma 100e invitée depuis le lancement de l'émission en septembre 2022. Donc merci tout particulièrement d'être venue au micro de Divergence.
Merci de me recevoir, Alain.
Vous êtes à la tête du Diable Vauvert que vous avez créé à Vauvert il y a près d'un quart de siècle et conduit depuis à la force du poignet. Vous allez nous raconter cette trajectoire intellectuelle, économique et humaine. Mais d'abord, quelques mots sur les premières étapes de votre parcours. Vos études se terminent par un DSS d'édition. Vous débutez à Arles, chez Actes Sud. Pourquoi avez-vous choisi ce métier, cet univers professionnel? Parce que d'autres pouvaient s'offrir à vous.
Oui, en fait, je pense que j'y ai été conduite sans m'en rendre compte, finalement. J'étais dans,
par aspiration.
Mais je pense que j'étais faite pour ça, sans le savoir. Vous savez, je ne voulais pas être prof. J'étais une fille de prof, de grands-parents instits.
Ah oui.
Et donc, tout le monde était prof dans la famille ou instituteur. Et donc, évidemment, vous ne voulez pas faire la même chose que les parents. Et en même temps, je crois que j'ai tout appris par les livres, mais de façon très passionnée.
Il y a quand même un amour immodéré des livres.
Complètement. Ça m'a permis de voyager partout, de tout nourrir. Enfin, les livres ont tout nourri chez moi et tous les livres étaient accessibles à la maison. Donc, c'était aussi un domaine assez privé. Par exemple, quand j'ai découvert les comics, c'était plutôt en cachette de la famille. Et je lisais aussi des choses qui ne se lisaient pas, de la SF, des histoires de mecs. Quand j'étais des sous-produits culturels, comme on disait à l'époque. C'était aussi mon jardin secret, les livres. Et en fait, j'ai tourné autour des livres pour ne pas être prof, jusqu'au moment où je me suis dit, bah oui, l'édition, c'est évident. Et je pense qu'en fait, j'étais faite pour ça, mais j'ai mis longtemps à le trouver. Donc, j'ai essayé un peu la librairie et tout. Et puis, évidemment, j'ai fait des études littéraires. Donc, à l'époque, quand on faisait des études littéraires assez longues, un peu de philo aussi, mais les sciences humaines étaient plutôt déconsidérées à cette époque. À part prof, on ne voyait pas trop, ce qui fait que j'ai compris que c'était l'édition assez tard.
Très bien. Alors, après Arles, vous travaillez à Marseille, aux éditions Jeanne Lafitte, puis à partir de 1987, à Paris, comme éditrice chez J'ai lu. En 96, on voit le progrès ou la progression, vous êtes directrice littéraire et membre du comité de direction. 4 ans plus tard, plutôt que poursuivre une carrière parisienne, vous mettez le cap vers le sud. Dans un moment, vous nous direz pourquoi et comment. Mais d'abord, Marion Mazurik, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Vous m'avez dit n'avoir vécu à Montpellier que moins d'un an pendant que vous étiez en classe préparatoire au lycée Joffre. Aujourd'hui, vous êtes venu d'Outre-Vidourle. Donc, parlez-nous de Montpellier avec le regard distant d'une gardoise. Quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché? Pour le coup, plutôt ceux qui ne figurent pas nécessairement dans les brochures touristiques.
Alors là, c'est très décevant parce qu'en fait, je suis une vraie touriste montpelliéraine. Je ne connais pas beaucoup de lieux secrets. Moi, j'ai effectivement découvert Montpellier du lycée Joffre, où j'avais un petit appartement dans le vieux centre. Et je me suis régalée, en fait, du Montpellier que tout le monde connaît, c'est-à-dire la place de la Comédie, l'Écusson, les vieux murs, quoi, ça, c'est formidable. Et puis ce lycée que j'ai trouvé extraordinaire. Ensuite, j'y suis revenue ensuite comme une gardoise. Donc la première expérience...
Pour des rendez-vous, des réunions.
Oui, pour des rendez-vous, des réunions diverses et variées, mais aussi beaucoup quand même, pas seulement. On vient aussi, quand on est gardois, pour des festivals, pour aller au cinéma, pour aller à la Comédie du Livre, dont j'ai toujours été une fidèle, évidemment, pas seulement en exposant. Et puis évidemment, bah, mes lieux, moi quand j'étais interne, quand j'étais en prépa, c'était le jardin du Pérou que j'adorais et que j'ai retrouvé avec la Comédie du Livre récemment.
Depuis qu'elle y est, depuis 2 ans.
J'ai une affection toute particulière pour la piscine. Parce qu'avant qu'on ait une grande piscine à Nîmes, bah, j'ai fréquenté...
La grande piscine d'Antigone.
Bien sûr. Super piscine à Montpellier. La médiathèque, énorme, magnifique. Bon, évidemment, c'est des lieux un peu attendus. C'est surtout une ville où je me suis promenée. Et puis après, c'est une ville que je connais très mal. Je m'y perds tout le temps, parce qu'en voiture, alors tous les Nîmois doivent dire la même chose.
De la vie même des Montpellierains, c'est compliqué, surtout avec les travaux depuis quelques temps.
Voilà, quoi. Alors, ce qui est pratique, c'est que si, il y a bien sûr la balade pour les Nîmois, Ikea, le tram, et après le centre-ville, ça on connaît. Mais c'est vrai que c'est une ville que j'ai du mal à appréhender, surtout depuis tous les travaux qui l'ont modifiée. Parce que quand on n'y habite pas, c'est une ville assez infernale en voiture. On se perd tout le temps, ouais, on n'y trouve rien. Mais bon. Je me souviens de nuit, il y a quelques années, à partir d'une réunion à Montpellier, à faire 10 fois le tour du centre-ville pour trouver le panneau direction l'autoroute de Nîmes. Quoi.
D'accord. Alors merci. Bon, écoutez, on va poursuivre de manière plus rapide et plus dynamique. Je saute une question. Alors, je le rappelle, donc en 2020, vous avez décidé de vous mettre à votre compte, comme on dit. Pourquoi et comment ? Quel a été le déclic ou les sources de la décision que vous avez prise à ce moment-là?
Tout simplement, je me suis rendu compte quand j'ai engagé ma vie professionnelle d'éditrice aux éditions J'ai lu, après avoir fait mes tout débuts à Marseille, chez Jeanne Lafitte, que je ne pouvais pas quitter ce pays. Mon pays, donc le Gard. Hein, et pour des tas de raisons, en fait, mais qui sont surtout liées à ma passion pour les chevaux et les taureaux, dont on reparlera peut-être, mais enfin du pays, quoi, à cette... ce Gard rural et que j'ai connu gamine. Ma famille était originaire de la campagne. Donc,
plutôt dans les Cévennes.
Oui, plutôt au pied des Cévennes, à Collorgues. Et j'ai vécu là toute la culture, mais pour moi, c'était le Far West français, quoi, les chevaux, les taureaux, la garrigue et puis ensuite la petite Camargue. Bref, et j'ai pas réussi à être une Parisienne professionnellement, ça me plaisait beaucoup quand j'ai commencé à travailler chez J'ai lu.
Vous aviez fait votre place.
Tout à fait, puis surtout, je travaillais dans une maison passionnante qui était donc J'ai lu. J'avais 27 ans, j'étais assistante du directeur littéraire. Je faisais exactement le métier qui m'intéressait dans une très grande maison de poche parisienne. Et puis, en fait, j'arrivais pas à vivre en ville tout le temps.
D'accord, c'est une décision c'était plus personnelle que professionnelle.
Pas possible. Au bout de 3 mois, quand je me suis rendu compte que je voyais plus la nuit, parce que pollution lumineuse, que je voyais plus l'herbe, que je voyais plus la nature, j'ai mesuré à quel point j'étais une vraie provinciale et qui avait besoin de la campagne, enfin, voilà. Et puis, tout ça s'est enchaîné, c'est-à-dire que j'ai continué à avoir une activité. Bah, je rentrais tous les week-ends, en fait, chez moi, où j'étais très impliquée dans une cavalerie d'arène, dans mes passions, donc équestre et taurine. Et puis ensuite, j'ai rencontré là-bas, chez moi toujours, un garçon qui est devenu mon mari. Et puis on a fait un enfant. Et je ne pouvais toujours pas me résoudre à vivre.
Un mari qui est dans ce milieu-là, pour le dire.
Oui, tout à fait. Il était forestier et picador de taureaux. Donc on était très liés à toutes nos activités dans les prés, dans les arènes, tous les week-ends. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas... au bout de 13 ans, c'est devenu un espèce de grand écart qui était d'abord épuisant. Et qu'en fait, si je voulais... Je ne pouvais pas quitter mon métier, je ne pouvais pas quitter mon pays. Quoi. Vraiment, au bout de 13 ans, là, vous faites le constat que ça diverge.
Vous avez fait en sorte d'allier les deux.
Et donc, Lagardère, je me suis dit, il faut créer... j'ai rencontré un ami qui m'a dit, mais crée une maison d'édition là où tu es, c'est-à-dire à l'époque à Vauvert, et elle s'est appelée Au Diable Vauvert. Et ça a été une décision dont je vis toujours toutes les conséquences, parce que par contre, c'était un pacte avec le diable, mais faussien, à vie. Vous ne pouvez pas créer une maison, puis dire un jour, finalement, j'ai envie de faire autre chose, j'en ai marre, ou quoi. Ouais. C'est quelque chose qui vous engage pour la vie. Tout à fait.
Bien. Alors, précisément, je vais vous prier de faire un exercice difficile de résumer ce quart de siècle. Quelles ont été les étapes marquantes du Diable Vauvert, la conquête d'une réputation, l'acquisition d'une certaine solidité, d'ailleurs peut-être relative, là, quelles ont été, je dirais, les éléments marquants de ce parcours?
Dès la création, on a créé une maison l'idée, c'était, les premières années, faire seulement une dizaine de titres, 10-15 titres, donc c'était difficile de marquer on a beau le dire, on l'écrit bien évidemment, l'orientation éditoriale et un peu les ambitions éditoriales, mais ça fait peu de titres pour le développer. On a eu la chance, dès la première année, dès le premier livre sorti, d'avoir le prix de Flore avec Nicolas Rey, pour Mémoire courte. Ce qui nous a bien identifié comme un éditeur qui allait faire de la littérature contemporaine, jeune, assez décomplexée, pas ouais, académique.
Qui n'était pas dans un conformisme dans les idées
reçues. Tout à fait. Pas du tout académique. C'est pas, comme disait un copain, on ne fait pas de la littérature bourgeoise. Mais d'emblée, l'idée, c'était de mélanger les genres et de sortir en fait des nouvelles voix, des nouveaux écrivains qui étaient nés un peu sur le terreau des pop cultures qui émergeaient, puis de cultures très en prise avec la société, très réaliste, très prospective. Donc évidemment, des auteurs qui étaient classés SF, des auteurs qui étaient d'ailleurs un peu intermédiaires, comme Thomas Gunsig, le belge, qui est toujours entre le réel et puis un peu le fantastique. Mais également William Gibson, Octavia Butler, des grands écrivains de science-fiction qui ont été reconnus en fait que 20 ans après.
Voilà. Et donc, il y avait quand même ce travail de découverte, faut voilà. bien le dire, oui. avec les risques que ça comporte.
Tout à fait. Et donc les grandes étapes, c'est en fait pour les maisons d'édition, c'est très simple, c'est les moments où vous vendez beaucoup de livres. Donc il y a eu ce premier prix de Flore avec Nicolas Rey, qui est le seul grand prix littéraire d'automne qu'on ait eu. Par contre, on a eu tous les prix de l'imaginaire et de la SF. Ensuite, il y a eu en année 10... toujours Nicolas Rey, notre premier best-seller à 100 000 exemplaires avec Un léger passage à vide. Et puis en 2014, on sort, alors là on fait un succès international qu'on vend dans une cinquantaine de pays, avec Jean-Paul Lydie Laurent, qui était le lauréat du prix Mingway, le prix qu'on avait créé pour de la nouvelle taurine. Et en fait, le premier lauréat, enfin un des lauréats, il l'a été deux fois, hein, on a modifié le prix pour lui. Donc des lauréats les plus emblématiques, a été quelqu'un qui venait des Vosges et qui n'avait jamais vu de corrida, donc un inconnu total, Jean-Paul Didier Laurent, novelliste extraordinaire. Et son premier roman qu'il a écrit chez nous en résidence a fait 100 000 exemplaires également et s'est vendu dans 50 pays. Il est en cours d'adaptation au cinéma. Il devrait être dans les années qui viennent, on devrait enfin le voir. Et puis les deux autres... résultat qui change la vie, c'est aussi le best-seller Crépuscule de Juan Branco en 2019. Et l'étape, la dernière, j'allais dire, ce qui nous change la vie, c'est toujours évidemment économique, hein, c'est-à-dire le nombre de ventes. C'est l'année dernière où une croissance de 30% de la maison.
Du chiffre d'affaires.
Des ventes, voilà, du chiffre d'affaires, pas du tout de la rentabilité, j'expliquerai, mais du chiffre d'affaires et qui est lié à une forte croissance du fonds. Notre fonds, c'est-à-dire les livres un peu anciens, qui sont toujours
en vente.
Voilà, et qui pèsent aujourd'hui plus de 30-35% des ventes. Et ça, c'est...
C'est encourageant, oui.
C'est très encourageant. Puis surtout, c'est quelque part, quand les livres d'il y a 20 ans se vendent mieux qu'il y a 20 ans et sont ceux qui se vendent le plus aujourd'hui, c'est quand même la récompense d'un choix qui a été fait sur le long terme, ce qu'on a toujours assumé, hein, que c'était des choix de moyen-long terme, que c'était... On ne fait pas des livres allumettes ou des... Chaque choix est tellement... Quand vous décidez de publier un livre dans une maison comme au Diable Vert, aujourd'hui, on n'en fait que 35 par an, c'est que vraiment, vous pensez qu'il a nécessité. Et donc, chaque choix nous engage et chaque choix est un risque.
Donc, il y a une espèce de...
Donc, si 20 ans après, il est
choix,
toujours
une
là...
Une maturation c'est... dans le choix, d'un impératif à l'arrivée, d'une nécessité.
Oui, tout à fait. Une nécessité, parce qu'on est quand même dans une période de surproduction industrielle et que le livre, c'est quand même le lieu du sens. Ça ne peut pas être le lieu du marché. Ça ne peut pas être le lieu du gâchis. Vous savez, on pilonne quand même énormément, toute l'industrie du livre pilonne énormément de ce qu'elle produit. Donc nous, à notre échelle, on est le contraire de ça. Nous, quand on pilonne quelque chose, c'est un échec, si vous voulez. C'est que
avec son incidence économique, mais aussi, comment dire, intime, quoi, personnel.
Complètement. Ça, c'est déchirant. Les éditeurs supportent très mal d'avoir des livres à pilonner.
Alors, vous avez, dans le même mouvement, raconté les grandes étapes et expliquer un grand trait, vos grands choix éditoriaux. Il y a aussi, me semble-t-il, une caractéristique du Diable Vert, c'est la conception graphique des couvertures, qui a aussi été une rupture avec l'édition traditionnelle, les grandes maisons, peut-être moins une rupture avec les formes nouvelles d'écriture.
Tout à fait, rupture, c'est exactement le mot. Alors, ça nous ramène en 2000, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des couvertures colorées avec des vernis, d'une vraie créativité, puis des couvertures différentes selon les livres. Ça, c'est beaucoup plus... Mais quelque part, on a fait partie des gens qui ont fait tomber ce truc qui était très français, qui était des couvertures blanches, toutes pareilles, voilà, avec NRF, une maquette unique. Oui, ça, et puis on connaît plus, finalement, l'éditeur transmet plus que l'auteur, qui est moins important que son éditeur. C'est la maquette de l'éditeur qui est l'élément invariant. Et justement, moi, j'ai voulu casser ça et me rapprocher de ce qui se faisait dans l'édition anglaise, ou aussi d'ailleurs dans l'édition américaine, hein, parce que on est les seuls en France à avoir des couvertures blanches comme ça. Et donc, on a fait un travail graphique qui fait qu'effectivement, sur chaque couverture, on travaille énormément. On peut faire 25 projets pour un bouquin. C'est beaucoup moins facile que si vous avez un cadre unique.
Ça prend du temps, mais ça suppose de trouver aussi les talents à chaque fois.
Ouais, on a un graphiste formidable, le même depuis 25
ans. C'est le même.
Ah oui, oui, tout à fait. Bah, de la même façon que moi, j'ai pas...
Il faut le citer alors, Marion.
Bien sûr, Olivier Fonvieille. Et il est absolument génial, il enseigne
à l'école
Étienne. Je
pensais qu'il y avait plusieurs talents que vous rassembliez sous la même houlette.
Quelquefois, on utilise des illustrateurs pour quelques œuvres, avec évidemment sa complicité.
Mais il y a quand même... Donc, je vous ai accompagné très vite et depuis, là. Bon,
depuis, je me souviens de notre première rencontre, on avait tous les deux 25 ans de moins. Et il avait fait un travail remarquable à l'époque pour les bibliophiles ou les gens plus âgés sur la collection Mille et une nuits, qui graphiquement avait rompu déjà beaucoup de codes. C'était les livres à 10 francs. À l'époque.
Ah oui.
Et donc, c'était un tout jeune graphiste. Et ce qui m'a plu, c'était cette liberté. Et puis en même temps, cette connaissance, parce qu'il a une plume, il est capable de tout dessiner. Il a un regard assez incroyable. On a été les premiers, oui, à faire des effets comme ça, faire des effets de vernis. Et l'idée, quand même, ce qui était derrière tout ça, parce qu'il y a une idée très précise, c'est d'être... que la littérature est un objet de la vie quotidienne. C'est pas un art d'élite... Et c'est pas quelque chose...
Le livre, le bouquin, il est sur la table de la cuisine ou du salon.
Exactement, il doit être souple. Donc la fabrication du papier aussi, on a plaisir à le toucher. Il y a des vernis sur la couverture, on a plaisir à le caresser. Et l'autre idée très importante, c'est que donc, la littérature n'est pas un objet d'élite, c'est un objet de la vie quotidienne. Et donc ça doit être comme les objets de la vie quotidienne, colorés, etc. Et d'autre part, le livre doit donner envie à son lecteur de le prendre. Donc, c'est le contraire aussi de la couverture blanche. C'est-à-dire, une couverture unie avec le nom, le titre, etc., c'est si tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre, mon gars, passe ton chemin. Donc, je m'adresse à des gens déjà cultivés.
Donc, c'est quand même aller prendre le lecteur par la main, mais par les yeux, si je...
Et de trouver la bonne image. C'est-à-dire, l'idée, c'est de trouver l'image qui va plaire au lecteur de ce livre. Et ce ne sera pas la même image que le lecteur. C'est pour ça qu'en fait, il y a des lignes graphiques qui sont par auteur et pas par éditeur dans la maison.
Alors, c'est là qu'on regrette de faire de la radio et pas de la télé, parce qu'on aurait monté quelques couvertures.
Il suffit d'aller sur notre site, audiable.com. Voilà.
Alors, une question, on l'a un peu évoquée, mais j'y reviens. Comment conjuguez-vous la passion de l'éditrice, les auditrices et les auditeurs en jugeront, et la raison de la chef d'entreprise, l'aventure de la culture et l'intégration dans le système économique? Comment cet équilibre, cette recherche d'équilibre, l'avez-vous aussi bien que possible trouvé? Parce que réussite économique et culturelle, parlons un mot de
effectivement, cet quand on est indépendant de plus, c'est-à-dire que si vous voulez, toutes les erreurs, on les paye soi-même, quoi, pour le coup. Et donc, c'est du funambulisme permanent. Effectivement, l'édition, c'est un métier de l'offre. Ça veut dire que... Alors maintenant, je vous ai dit, notre fonds pèse 35% du chiffre d'affaires, mais c'est vrai que depuis la 20e année, si vous voulez, il pesait 10%. Donc ça veut dire que chaque année, vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire comme résultat à chaque fois que vous commencez une année et que vous ne proposez que des livres qui, par définition, sont des prototypes, n'existaient pas avant.
Donc il y a une prise de risque à chaque
fois. Prise de risque continuelle. Et ça fait partie des zones d'ombre de ce qu'on ne sait pas dans l'édition. C'est un métier extrêmement dur et où... Alors moi, déjà, je dirais que la première chose qui m'a aidée à affronter ce risque-là, c'est les exemples justement de taurin, hein, le courage devant les taureaux. J'ai eu quelquefois l'impression que je me levais pour aller affronter des corridas toute seule, six taureaux, très violents. Non, mais et puis il y a eu des périodes dans les débuts où vraiment les étés, on ne faisait pas de chiffre d'affaires, c'était extrêmement difficile. Et vous passez trois semaines sur votre mois à aller chercher de l'argent pour... Plutôt qu'à travailler, à lire, etc. Ça, c'est le début des entreprises indépendantes de l'édition, pour celles qui survivent, parce que, c'est, encore une fois, c'est difficile, jusqu'au moment où, si vous avez bien travaillé, le fonds prend le relais. Mais en ce moment, on est dans une période de croissance, donc de développement très sain, puisque c'est nos ventes qui montent. C'est vrai que Il y a une forme de schizophrénie. Hein. Il y a d'un côté la lecture des textes et l'envie de publier, y compris des textes risqués. Et puis de l'autre côté...
Une certaine prudence.
La prudence, c'est même mon métier, parce qu'il faut payer les salaires et les auteurs, donc et les imprimeurs, c'est une vraie responsabilité. Donc bah, je transpose tous ces choix, tous ces coups de cœur en compte d'exploitation, en prévision. L'idée étant que je ne cherche pas à gagner de l'argent pour moi-même, ni dégager du bénéfice, mais être à l'équilibre, et que les livres plus risqués seront financés par des livres qui vont marcher. Et globalement, c'est ce qui se passe un peu chaque année, même si ce n'est pas toujours celui que vous attendiez qui fonctionne. C'est quand même un vrai travail un peu schizophrénique d'équilibre, et voire même de funambulisme, hein, comme je le disais.
Alors, on élargit, on dézoome, comme on dit. Le monde de l'édition en France est marqué par de profonds changements, appelons-les capitalistiques, notamment avec la montée en puissance du groupe Bolloré, à la fois d'ailleurs dans l'édition comme dans les médias. Comment décrivez-vous ce phénomène et comment l'analysez-vous ?
Bah, vous savez, dans les 30 dernières années, l'édition s'est concentrée de plus en plus.
C'est les phénomènes de concentration, ils n'ont pas commencé dès récemment.
Exactement, sauf que ce qui était nouveau, ce qui est totalement nouveau avec l'arrivée de Bolloré, jusqu'à présent, on avait des concentrations qui étaient entre groupes d'édition. Vous voyez, par exemple, Gallimard, qui est devenu un groupe tout à fait important, c'est le troisième ou quatrième acteur en France, qui est un groupe indépendant. Mais voilà, on avait des groupes d'édition, même Lagardère était un... Et puis justement, quand Lagardère est arrivé, alors c'était encore une tradition un peu ancienne, donc c'était le capital industriel qui prenait la main sur un groupe d'édition, de la même façon pour Vivendi. Donc ça, on a vu ce basculement-là au tournant des années 90-2000. Mais ce qui est très très nouveau avec Bolloré, c'est tout d'un coup un industriel très très puissant qui vient prendre le contrôle non seulement de l'édition d'un énorme groupe, celui d'Hachette, mais également des journaux et de la presse, ainsi que Kretinsky et d'autres. Et on se retrouve aujourd'hui dans une édition qui dépend complètement du capital industriel. Hein, en fait, 80% du chiffre de l'édition est réalisé par les premiers groupes, les tout premiers groupes, les trois. Et alors ça pose des tas de questions de concentration, d'homogénéisation, si vous voulez, d'uniformisation de la pensée, mais surtout d'une forme de contrôle politique réel.
Oui, parce que là, il y a une intention idéologique qui est avérée pour Bolloré.
Exactement. Bolloré a pris le compte un petit peu comme Elon Musk avec les réseaux. On le voit aux États-Unis, ce qui a favorisé l'élection de Trump. En France, c'est la même chose. On a des très gros industriels qui ont décidé de prendre le pouvoir en France pour pouvoir mieux faire ce qu'ils voulaient, bah parce qu'il y a une protestation populaire qui est évidemment
forte. Pas le pouvoir
forte.
Sur remplir des bateaux ou le pouvoir pour fabriquer des avions, mais le pouvoir sur l'expression de la pensée.
Oui, c'est tous les pouvoirs. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent maîtriser à la fois les tuyaux et la pensée et la conception. Et c'est vrai que ça pèse très lourd. Un auteur comme Juan Branco, dont je parlais tout à l'heure, ne pouvait pas trouver d'éditeur en France s'il n'y avait pas eu un indépendant comme le diable, parce qu'il était censuré, alors qu'il représente quelque chose en France très important, et etc. Et donc, si vous voulez, mais c'est aussi une question d'uniformisation sociale, d'uniformisation géographique, c'est-à-dire que la concentration à Paris n'a pas cessé de se faire, alors qu'on est le pays le plus concentré du monde, quand même. Alors, quelque part, bah oui, quand vous êtes à Vauvert, vous appelez au diable Vauvert, en soi, c'est une... C'est déjà de la résistance politique. Hein, c'est... Parce que vous avez aussi, du coup, une homogénéisation, une uniformisation de la pensée, des goûts, des habitus, comme dirait Bourdieu, et qui provoque normalisation culturelle, politique, etc., entre eux, ne serait-ce que les territoires, comme on dit, vous savez, décentralisés, et puis la capitale centralisée. Et c'est quelque chose qui ralentit, de très paralysant pour notre pays.
Alors, une petite question avant d'arriver aux dernières interrogations, mais pour faire lien à ce que vous dites, quels sont aujourd'hui les sujets qui s'imposent dans nos vies, qui bousculent la société, auxquels vous êtes particulièrement attentive et qui vont... au moins à terme, je dirais, susciter l'édition de tel ou tel livre. Comment votre regard, votre observation, pas seulement du monde de l'édition, mais de la société française et de la société politique notamment, vous oriente ?
Bah, vous savez, ça fait 20 ans que je publie, 25, même plus, si je compte les années avant Au Diable Vauvert, des écrivains de ce qu'on appelle aujourd'hui la dystopie. c'est-à-dire des écrivains d'alarme qui sont en gros la génération des écrivains de science-fiction comme William Gibson. Alors, je publie deux très grands écrivains de ce genre. William Gibson, l'auteur de Neuromancien, Octavia Butler, l'auteur de La parabole du semeur, qui aujourd'hui, il y a encore eu un article du Huffington Post il y a deux jours pour dire à propos de l'élection de Trump, on est dans Octavia Butler. Ah, oui. Ce sont des écrivains de SF, ce qu'on appelait de livres d'alarme en fait, qui sont ces auteurs des années 80 qui nous ont mis en garde contre le monde qui est en train de se fabriquer, toute la vague du cyberpunk qui est au cœur de notre catalogue, au Diable Vauvert. Et moi, ce qui est, donc, c'était, je dirais, que cette conscience-là du monde qui pouvait se venir et des conflits profonds, des risques de la guerre, de l'écrasement, de tout ça qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'anime, je dirais, depuis ces textes-là. C'est même pour ça que, pour publier ce genre de texte, que je suis devenue éditrice aussi. Donc, je dirais que plus...
Donc, il y a une continuité, ou cette flamme-là que vous avez allumée.
Continuité. Je suis même très triste de voir qu'aujourd'hui, ces livres qui semblaient de la science-fiction, c'est la réalité. Donc, moi, les grands sujets, si vous voulez, pourquoi je fais des livres, parce que je pense qu'il est important d'apprendre à penser librement, de développer un esprit critique, d'essayer de développer une humanité qui soit plus humaine et moins mortelle et moins dangereuse et moins conduite, comme dirait Butler, par la domination des uns par les autres. Donc ce qui fait que être éditrice aujourd'hui pour moi, c'est un peu être au cœur de toutes ces résistances-là, qu'elles soient contre le racisme, tous les racismes, qu'elles soient contre les dominations, qu'elles soient pour la paix, pour la... Et à chaque fois qu'on fait un livre, je dois dire qu'on a l'impression de semer des graines de choses plus positives que ce que le spectacle du monde aujourd'hui. Mais voilà, on voit bien que la planète et l'humanité sont en train de jouer avec le feu, quoi, très fortement. Et donc, à notre échelle, en ouvrant comme ça la pensée, les imaginaires, on publie Angela Davis, par exemple. Alors, c'est pas récent, hein, ça fait depuis 15 ans. Mais là, on va sortir ces deux prochains livres.
Ah oui.
Oui, tout à fait.
Dans les mois qui viennent.
Oui, dans l'année prochaine et l'année en 25 et 26. Et c'est vraiment la somme de tous ces derniers écrits non publiés. On a réédité aussi le fond de Che Guevara, parce que je pense que le simple fait de se dire un jour on peut se révolter quand il n'y a pas de fatalité, c'est quelque chose d'important. On publie aussi, là récemment, le texte de Dédé Cabal qui raconte comment lui, homme noir a été en fait un petit garçon violé, battu. Enfin voilà, je pense qu'on est un éditeur complètement ancré dans son époque.
Alors, ce sera la dernière question, mais les auditeurs ont compris que j'en avais d'autres sous la pédale. Dans votre production récente, peut-être un petit conseil, alors peut-être j'ai pensé à Kansu, donc c'est un livre que vous avez publié récemment, La librairie de Soram, une comédie à Montpellier, dont on va accueillir ce vendredi 24 janvier à 18h30 une nuit de la lecture consacrée à ce livre singulier et aussi dans une forme singulière. Vous voulez bien nous en dire un mot ?
Oui, tout à fait. Le Kansu, c'est magnifique. C'est donc un chef-d'œuvre de la littérature occitane. Hein. C'est une chanson de geste qui nous a fondés, comme bien d'autres. Et elle a été relue et traduite par Félix Jousserand, qui est un poète, et Gilles Coronado, qui est un musicien, et qui font de ce texte un texte totalement universel sur la guerre, une adaptation qui est très contemporaine. Donc c'est très très beau, ce sera pour les Nuits de la Lecture dont on est partenaire avec la librairie Sorams, qui est aussi un complice des premières années.
Et avec de la musique donc.
Bien sûr, voilà. Tout ça est en musique, c'est un spectacle magnifique. La traduction à Félix Jousserand, c'est un poète qui est apparu sur la scène slam, qui est d'origine limoise, qui est montpelliérain, qui a été à la Villa Médicis, qui est un des auteurs qu'on publie depuis bien longtemps. On a déjà 5 recueils de lui. Et c'est vraiment une voix. Alors voilà, il incarne bien les voix qu'on aime au diable, c'est-à-dire à la fois très, très écrites, complètement contemporaines, et puis totalement impliquées dans le monde d'aujourd'hui.
Alors je le rappelle, c'est ce vendredi à 18h30 chez Sorams. Merci beaucoup, Marion Mazurik, d'être venue jusqu'à nous pour nous faire partager votre passion et vos engagements. Au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sérop.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.